Eh bien, troisième partie dans cette émission consacrée à de la musique classique à travers une symphonie intitulée La symphonie d'une destinée. Et nous avons le plaisir d'avoir en direct au téléphone, mais également autour du studio, autour de la table ici, les créateurs, les compositeurs, les chefs d'orchestre de cette symphonie. Alors, je vais d'abord dire bonjour.
Bonjour.
Et puis, à vos côtés également, un autre créateur également de cette symphonie, puisqu'il a écrit la musique de cette symphonie, et c'est Pierrick Poirier. Bonjour.
Et bonjour.
Et puis nous avons également par téléphone l'homme qui a fait jouer cette musique, le chef d'orchestre. C'était pas tout près, c'était en Macédoine. Il nous expliquera tout ça dans quelques instants. C'est François Rousselot. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous.
Merci à vous. Merci à vous de m'avoir contacté pour pouvoir vous exprimer quelques mots.
Eh bien, nous allons parler de cette symphonie d'une destinée. Et pour tout expliquer, on va d'abord essayer de comprendre d'où elle vient, cette symphonie. Alors d'abord, on n'écrit pas souvent des symphonies au XXIe siècle. Il y en a très peu qui sont écrites. Et plus souvent, on rejoue ce que l'on connaît de la musique classique en général. Alors, quelle idée donc saugrenue que de vouloir écrire une symphonie, Jean ?
Eh bien, je pense que c'est un projet totalement fou, comme on l'a dit. Mais c'est vrai qu'une création symphonique du XXIe siècle, c'est quelque chose de pas courant. Et on a voulu marquer vraiment quelque chose d'important. Et on essaie de la faire connaître au travers de différents médias et de différentes sources comme les radios, pour qu'elle puisse être connue.
Alors, au-delà de la musique que nous allons présenter dans quelques instants, bien entendu, il y a une idée sous-jacente dans cette symphonie qui est celle du projet. Alors pourquoi ?
Ben le projet, je crois qu'il se définit au travers d'une initiative qui fait refléter un petit peu tout projet dans cette symphonie, qui est avec la conception, le projet qu'on dessine, qu'on prépare, l'euphorie qui est vraiment l'adrénaline, parce que on a l'impression que le projet va être vraiment extraordinaire. Et puis, on a le doute parce que est-ce qu'on a bien pensé à tout? Et puis, bah, le triomphe, parce que le triomphe, bah, c'est l'aboutissant d'aujourd'hui. C'est qu'elle existe, elle a été interprétée, elle existe, elle est sur CD et elle est diffusée dans différentes radios en France, mais également à l'étranger.
Alors, cette symphonie, ça aurait été la symphonie de l'artisan, la symphonie du meilleur ouvrier de France?
Oh, bah, ça peut s'associer à n'importe quel projet, qu'il soit petit ou grand. Et on passe forcément par des situations. Je pense qu'une radio comme la vôtre est passée par ces étapes, tout à fait.
Alors, Jean, je sais que vous êtes musicien. Votre instrument de prédilection, je crois que c'est la guitare. Mmh. C'est ça ? Je me trompe pas, vous me dites
absolument,
quand même.
Hein. Absolument.
Donc, je suppose que passer de la guitare à une symphonie, c'est un pas de géant.
Ben, disons que oui, c'est un pas de géant et c'est un pas qui m'a été tout à fait possible avec mon collègue et ami Pierrick Poirier, qui, lui, avait déjà œuvré dans ce domaine, dans ce genre musical. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire.
Alors Pierrick, justement, parlons-en. Lorsque vous avez rencontré Jean, peut-être que vous connaissiez déjà auparavant, je ne sais pas. En tout cas, quand vous l'avez rencontré et qu'il vous a proposé cette idée originale, quelle a été votre réaction ?
Écoutez, pour tout vous dire, la première fois qu'il m'en a parlé, j'étais sur la réserve. D'ailleurs, je ne pensais pas pouvoir le faire. Mais au départ, non, je n'y croyais pas vraiment.
Oui, alors pourquoi donc ?
Bah, d'une part parce que c'est
pas souvent qu'on écrit une symphonie.
C'est un peu comme écrire une fugue ou un exercice de contrepoint, on n'écrit pas souvent. Et comme tout domaine, il faut travailler tous les jours, il faut de l'entraînement, c'est comme pour un sportif. Donc passer brusquement d'un autre sujet, enfin un autre travail à se mettre à écrire une symphonie, ça me paraissait d'une ampleur considérable, donc j'étais un peu effrayé, oui.
Et ensuite ?
Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes cours, parce que j'ai pris des cours d'écriture avec plusieurs maîtres à Paris, d'ailleurs. J'ai repris mes cours, j'ai analysé aussi des symphonies de Beethoven, et j'ai calqué d'ailleurs le plan de travail de cette symphonie sur la cinquième de Beethoven. Oui. Évidemment, ça n'est pas la même chose.
Oui.
J'ai construit l'immeuble, si vous voulez, l'échafaudage, en gardant les mêmes plans, voilà.
Donc quand on écrit la musique, il faut forcément penser à l'orchestre qui va jouer, aux instruments, etc.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc c'est complexe. Hein,
c'est complexe, mais bon, ça repose aussi sur des techniques, c'est technique. Hein. Mais j'ai eu la chance d'avoir un maître à Paris qui s'appelle M. Patrice Ciortino, Et j'ai pris peut-être 4 ans de cours d'orchestration classique avec lui. Donc j'étais assez paré quoi, pour ça. Mais la difficulté n'est pas là, c'est de trouver les idées, l'harmonie et puis les thèmes, la mélodie. Parce que dans une symphonie, il y a plusieurs thèmes. Quoi qu'il y a toujours un thème récurrent, mais vous voyez.
Alors Jean, je suppose que ça n'a pas été trop simple d'aller jusqu'au bout des choses entre l'idée originelle et puis le moment où on écrit la musique. Il s'est écoulé combien de temps là-dessus?
Un an et demi,
d'accord. Et puis pour écrire cette musique, ça a été
Un an et demi,
donc 3 ans là déjà. Hein oui. Bon. Et après, il fallait la faire jouer, cette symphonie.
Oui, mais ça, il faut voir avec M. Waterken, c'est lui qui a trouvé la solution.
Voilà, et d'ailleurs, on va en parler d'ici quelques instants. Alors, auparavant, peut-être un premier extrait, mais on va donner la parole, bien sûr, au chef d'orchestre, qui est toujours là, j'espère.
Oui, je suis toujours
voilà,
là.
Voilà, vous écoutez attentivement. Oui. Alors, M. Rousselot, nous allons écouter tout de suite un premier extrait de cette symphonie. Alors, quelques minutes, quelques instants. Et ensuite, eh bien, je vais vous donner la parole. Vous allez nous expliquer un petit peu dans quelles conditions a été faite cette prise de son. C'était en Macédoine. Alors, nous écoutons ce premier extrait. Monsieur Rousselot, vous entendez donc cet extrait également comme nous. Alors, évidemment, par le téléphone, c'est peut-être moins agréable à entendre. En tout cas, dites-moi, quel effet ça vous fait d'entendre également donc, cet enregistrement que vous avez dû écouter plusieurs fois, donc, qui est diffusé en ce moment sur notre radio. Alors, et dites-moi également, comment s'est fait cette rencontre avec Jean Waterken?
Alors, bah, la rencontre avec Jean Waterken s'est fait plus ou moins par hasard. C'est-à-dire que j'avais vu qu'il montait un projet sur le site de la SACEM, il me semble, une annonce. Et donc, nous avions communiqué par mail. Jean Waterken m'a recontacté, ça devait être au mois d'avril, je crois, l'année dernière, pour me dire j'aimerais vraiment que la symphonie aboutisse. Donc, je lui ai dit sans problème, et on a cherché ensemble la solution pour donner vie réellement à cette symphonie, avec de vrais musiciens, avec un vrai orchestre.
Alors, ce n'est pas chose facile, parce que réunir, je crois, 54 musiciens, il faut trouver l'orchestre qui accepte de jouer cette symphonie. Alors, pourquoi avez-vous été jusqu'en Macédoine?
La Macédoine, pour diverses raisons, ça va du coût, tout simplement, parce que les musiciens sont un peu moins chers. Les musiciens demandaient un orchestre en Macédoine, finalement, ils étaient très rapidement partants, alors que réussir à trouver un orchestre professionnel en France, avec un studio surtout, etc., c'est pas forcément si évident que cela. Cela peut prendre beaucoup plus de temps. Et puis, pour la qualité musicale, tout simplement, de ces musiciens en Macédoine, et donc c'est un orchestre qui est assez récent, qui a 1 an et demi. Mais le tapis de cordes est vraiment somptueux. Ils ont réussi à trouver maintenant dans chaque pupitre des instruments solistes d'une grande qualité. Donc, c'est vrai que le doute quant à la qualité de cet orchestre n'est plus possible aujourd'hui, pour moi en tout cas.
Alors, rentrons un petit peu dans le détail, si vous voulez bien. Comment avez-vous découvert cette symphonie? De quelle manière vous en êtes imprégné?
Beaucoup par le conducteur. Jean Waterken et Pierrick avaient fait des maquettes informatiques avec des sons, donc des sons MIDI. Mais c'est vrai que je me suis quand même avant tout basé sur le conducteur, la partition donc du chef d'orchestre que m'avait envoyé Pierrick. À partir de là, j'ai essayé de voir les éléments les plus importants, ce qui pouvait être le plus important de faire ressortir lors de l'enregistrement.
Et dans votre expérience de chef d'orchestre et puis dans la connaissance que vous avez également de la musique, on disait tout à l'heure que finalement, c'est pas souvent qu'on écrit des symphonies au XXIe siècle, puisqu'on reprend le plus souvent des œuvres déjà écrites. Alors là aussi, quelle impression ça vous a fait ?
Tout simplement de jouer quelque chose qui n'a, enfin de diriger quelque chose qui n'a jamais été joué, c'est toujours très agréable. Ça a un côté, je trouve, très gratifiant. Une symphonie, effectivement, au XXIe siècle, c'est pas la forme à laquelle on pense en premier. Donc c'était très agréable parce qu'on retrouvait des choses standards, entre guillemets, c'est-à-dire les quatre mouvements, des choses agréables à écouter et à diriger. Et ce côté de pouvoir permettre la création d'œuvres contemporaines est pour moi toujours très importante. De nombreux compositeurs composent des œuvres qui restent aujourd'hui dans les tiroirs et ne sont jamais jouées par des vrais musiciens. Et encore plus aujourd'hui avec les ordinateurs qui font des choses pas mal. De plus en plus, tout est joué via de l'informatique, malheureusement.
Voilà, donc là, il s'agit d'une véritable création.
Oui, là, il s'agit de vrais musiciens, de vraies personnes. Le violoniste avec ses problèmes du matin, le oboïste avec sa joie. Enfin, il y a plein de choses qui rendent en compte, qui font que sur 54 musiciens... ce n'est plus que de la c'est pas du tout de la programmation informatique. Voilà, il y a un côté humain, c'est une chose très importante pour moi.
Alors, lorsqu'il s'agit de faire jouer donc cette symphonie à un orchestre de Macédoine, je suppose qu'il y a la barrière de la langue. Alors, quel langage utilisez-vous avec les musiciens ? Peut-être tout simplement la musique ?
La musique, sauf que naturellement, c'est très difficile, c'est pas suffisant. Alors, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, la langue internationale reste l'anglais. Ils comprennent relativement bien l'anglais, donc on communique avec l'anglais, et puis après, effectivement, en chantant ce que l'on veut pour leur donner l'intention, avec les gestes aussi, c'est vrai que le visuel a une importance, et pour le gros, on communique en anglais quand même.
Alors, je me tourne un petit peu vers Pierrick, qui était avec vous, je crois, en Macédoine, pour l'enregistrement de cette symphonie. Alors, quel effet ça fait, Pierrick, lorsqu'on voit jouer une musique qu'on a écrite ?
Bah, tout d'abord, que je ne connaissais pas François Oslo, et je me souviendrai toujours, je suis arrivé à minuit donc, la veille de la première séance d'enregistrement, et j'ai rencontré donc François vers 8h du matin. Il descendait de sa chambre d'hôtel avec le score sous la main, on a pris le petit déjeuner ensemble, et j'avais quelques appréhensions parce que je ne connaissais ni le chef d'orchestre, ni les techniciens, ni les musiciens, donc j'étais un peu dans un flou artistique, on peut dire, voilà. Et d'emblée, j'ai vu tout de suite, quand je suis arrivé au studio, que un technicien a pris les partitions, les a installées sur le pupitre, j'ai vu d'emblée que c'était vraiment un endroit où il y avait une qualité professionnelle. Et à partir de là, après quand François a commencé à faire travailler les instrumentistes, j'ai vu tout de suite que ça allait le faire, quoi, voilà. C'est un vrai professionnel.
Cette symphonie est maintenant enregistrée. Il s'agit bien sûr de la faire jouer. Donc de la faire jouer, l'idéal peut-être, ce serait en public, ou en tout cas la faire jouer sur les médias, sur les radios. Alors, ce sera sans doute l'objet d'ailleurs chez nous d'une émission particulière à venir où on jouera cette symphonie dans son entier, bien sûr. Hein. Alors, je suppose que ça aussi, c'est très important que de faire vivre cette musique en la jouant, je suppose, François.
Ah, tout à fait. L'enregistrement est une chose. La vérité du concert, par exemple, en est une autre. Il se passe des choses, des fois, en concert qu'on ne peut pas réussir à reproduire en enregistrement, tout simplement parce que c'est... l'émulation du moment et tout simplement la magie du concert, ce qui fait aussi qu'aujourd'hui les concerts restent des choses très importantes.
Alors nous allons écouter un deuxième extrait donc avant de tirer la conclusion de cet entretien parce que ça passe vite. Alors un deuxième extrait, alors cette fois-ci je crois que nous avons choisi dans le quatrième mouvement donc le triomphe, hein, c'est cela ?
Oui c'est ça. Oui,
un petit mot peut-être sur cet extrait ?
Bah, dans ce quatrième mouvement il y a là plusieurs thèmes parce que je crois qu'il dure environ 15 minutes et l'extrait que nous allons écouter c'est une valse tout simplement.
Alors nous l'écoutons. Thank you. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas diffuser l'intégralité de cette symphonie dans ce magazine qui lui est pourtant consacré, mais nous aurons le plaisir de la diffuser dans son entier très prochainement. Alors, Monsieur Rousselot, vous êtes toujours au bout du fil ?
Oui.
Voilà. Eh bien donc, question qu'on pourrait se poser. Donc, vous avez, je crois, vous êtes très jeune, vous avez, je crois, 25 ou 26 ans, c'est ça ?
C'est ça, oui, 25 ans, oui.
Voilà. Et donc, vous avez cette expérience de chef d'orchestre et cette maturité nécessaire à la réalisation de cet enregistrement. Alors, je vous dis bravo.
Ben, merci beaucoup.
Voilà. Et puis j'espère que cette symphonie va poursuivre son petit bonhomme de chemin avec la problématique dont on parlait il y a quelques instants. Comment la faire connaître? Comment la faire vivre? Comment la jouer? Alors, quelques idées de ce côté-là, Jean?
Oh bien, je fais moi une démarche de la deuxième phase, donc j'appelle ça la deuxième phase. La première, c'était vraiment l'écriture, la création. La deuxième phase, c'était l'enregistrement et le CD. Et maintenant, le faire connaître. La troisième phase, ce serait le summum, ce serait l'interprétation en concert, l'interprétation dans des festivals et ainsi de suite. Mais là, c'est une autre étape. Mais pour autant, on a une grande satisfaction avec Pierrick et je pense avec François Rousselot également. C'est que l'outil informatique permet d'approcher un univers beaucoup plus large que l'univers qu'on a seulement en France. Et c'est vrai qu'une grande satisfaction, c'est que maintenant, à ce jour, il y a déjà 4 radios dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Autriche et en Italie, qui vont diffuser cette symphonie. Et il y en a d'autres, j'espère, qui vont se mettre sur la ligne. En n'oubliant pas la France, qui, bien sûr, au travers de radios comme Zénith FM, permet justement de faire connaître des œuvres qui n'ont pas d'autres possibilités d'ouverture. Et c'est vrai, l'important aussi, ça serait de sensibiliser des radios qui se disent vraiment musique classique et qu'ils aient un intérêt et du respect pour la création.
Voilà. Alors, vous êtes un petit peu le porte-parole de ce genre de choses, mais c'est bien, parce que je pense qu'il faut se bousculer. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez que c'était pas forcément facile de faire jouer cette symphonie, par des orchestres, parce qu'il y a une habitude de ce côté-là, peut-être, qui va pas forcément en faveur de la nouvelle création.
Disons que les orchestres classiques subventionnés, évidemment, jouent toujours les mêmes répertoires. Hein. Ça, après, il faut voir qui décide aussi, voilà.
Voilà, donc c'est une discussion à mener de pied ferme, si
oui,
je comprends bien.
Il faut bousculer les décideurs.
Voilà, absolument. Mais on compte sur vous pour ça. Alors maintenant, voyons voir côté pratique, comment on peut faire pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient se procurer le CD.
Alors, le distributeur exclusif, c'est la société Symphony Project, parce que malheureusement, là aussi, les endroits où on pourrait se procurer, la FNAC, Virgin et ainsi de suite, ne sont pas ouverts à des créations. Une fois de plus, c'est une déception de ce côté-là. Donc, la distribution se fait au travers des commandes sur Internet, sur un site que je vais donner, le site www.symphoniedessaveurs.com. toutattaché.fr.
Alors, symphoniedessaveurs.fr. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut composer également pour se procurer le CD. C'est le 06 71 25 62 60. 06 71 25 62 60. Vous saurez tout également avec les liens nécessaires sur cette symphonie des destinées en vous rendant sur notre site, tout simplement zenithfm.fr. Vous pourrez entendre d'ailleurs ce reportage, écouter des extraits de cette symphonie et avoir les liens utiles pour pouvoir commander le CD. Qu'on se le dise. Eh bien, Monsieur Rousselot, je vais vous dire au revoir.
Au revoir et merci à vous.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce reportage.
Merci à vous vraiment pour l'invitation.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Voilà.
Au revoir, François.
Oui. Au revoir.
Et Jean, merci d'être venu une fois de plus. Nous aurons l'occasion donc de diffuser cette symphonie prochainement. On vous tiendra au courant et nos auditeurs aussi. Et puis, Pierrick, bonne musique. Hein.
Écoutez, c'est gentil. Merci beaucoup.
Voilà. Merci. À bientôt.
Merci à toi, Paul. Et puis, bravo à Zénith FM qui s'intéresse à tout genre de musique.
Merci.